le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Effectivement, nous sommes toujours en direct à Bordeaux pour le congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat, un événement fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et parmi justement les acteurs, nous avons le plaisir de recevoir Michel Fréchet. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes président de la CGL, donc la Confédération Générale du Logement. À vos côtés, Ahmed Mamache. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Et vous êtes secrétaire général de la CGL. Alors avant d'aborder justement les grandes questions que j'avais envie d'aborder avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter la Confédération et quelles sont justement les actions quotidiennes que vous menez justement voilà, pour servir les Français. Michel.
Eh bien écoutez, la Confédération a été créée en 1954 à l'initiative de l'abbé Pierre. C'était à l'époque, la France était en pleine crise du logement et il s'était formé un peu partout en France des comités de sans-logis. Là-dessus, un petit peu avant, l'abbé Pierre avait lancé son appel sur Radio Luxembourg.
Oui.
Et la réunion de ces comités de sans-logis a donné naissance à l'Association des comités de sans-logis qui ensuite s'est appelée CGL. Donc depuis, la CGL a beaucoup évolué et depuis, la CGL regroupe des locataires, des copropriétaires, des accédants à la propriété, des personnes demandeuses de logement. Éventuellement même si ce type de personne est assez rare chez nous, mais nous en avons quand même des gens qui n'ont pas de logement, qui dorment à l'extérieur ou dans leur voiture. Voilà, la CGL regroupe tous ces gens-là. Et elle a été reconnue par les pouvoirs publics comme étant du côté du ministère du Logement représentatif des locataires et du côté du ministère de l'Économie et des Finances comme représentatif des consommateurs. À ce titre, nos militants siègent dans différentes structures, dans les départements comme, ou même au niveau national, comme le Conseil national de l'habitat, la Commission nationale de concertation, etc. etc. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que ce serait trop long. Mais voilà,
vous avez une grande équipe, en tout cas.
Oui. Alors, y a
et vous
ça.
Œuvrez au niveau national, hein, j'imagine.
Non, on œuvre au niveau national. On est présent sur la plus grande partie du territoire en France.
Très bien. Ahmed Mamache, vous êtes investi à la CGL depuis très longtemps.
Tout à fait.
Oui, depuis combien de temps à peu près?
Alors, j'ai rejoint la Confédération Générale du Logement en 2012.
Oui.
Puis j'étais candidat pour porter une liste sur les élections HLM en 2014, j'ai été élu. Puis je suis devenu conseiller confédéral et actuellement membre du bureau national de la Confédération.
Alors, c'est vrai, quand on a discuté un petit peu hors antenne, vous aviez plutôt une vision pessimiste de l'accessibilité au logement, en tout cas de la situation du logement en France, ce qui n'est pourtant pas le discours que j'écoute depuis ce matin, où tout le monde dit que finalement on a traversé cette crise avec plutôt une certaine facilité. Est-ce que vous confirmez? Quel est votre avis là-dessus,
oui, alors,
Michel?
Je vais vous faire une réponse un petit peu en nuance.
Ah, alors.
On a traversé la crise avec une certaine facilité. J'imagine que les bailleurs veulent dire qu'on s'attend à des catastrophes.
Et qu'il n'y a pas eu de catastrophe.
D'accord. Globalement, les gens ont payé leur loyer. Alors, ils ont payé leur loyer grâce à toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Tout comme beaucoup d'entreprises, de commerces ont traversé cette crise grâce aux aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle on vous dit, ici ou là, on a traversé cette crise.
Oui, ça n'a pas l'air si catastrophique, en tout cas.
Non, ça n'a pas été catastrophique, mais parce que pendant plus d'une année, l'économie a été, soutenue par les pouvoirs publics et les locataires des logements sociaux, même chose. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, en attendant mon tour pour passer, j'écoutais un peu le discours de la ministre qui vous a dit, si je me souviens bien, on va construire en 2021...
Sur les deux ans qui arrivent, en partenariat.
100 000 logements.
Même 200 000, ça va même 250 000.
Ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Mais donc, elle dit 100 000.
Oui.
Et donc, elle a oublié de dire que dans la même période, on en démolit. Il faut le dire, ça.
Hein. Évidemment.
Donc,
mais est-ce qu'on les démolit pour mieux reconstruire?
Alors,
parce que c'est
mais si
ça
on reconstruit mieux, ils font partie des fameux 100 000 logements. Mais au total, comme on en a, démoli environ 20 000, eh bien, la réalité, c'est que les usagers vont disposer de 80 000 logements et non pas de 100 000 comme c'était annoncé, parce qu'il faut aussi pas dire qu'il y a des démolitions dans le cadre des restructurations de quartiers, enfin, etc.
D'accord.
Ça, elle l'a oublié.
Et ça, vous avez essayé de l'accaparer pour lui dire ou pas? Est-ce que c'est difficile de parler de ces sujets-là avec,
non,
avec les institutions?
Elle nous a... Elle s'est rattrapée aujourd'hui parce qu'elle nous a reçu, les cinq organisations nationales représentatives des locataires. Elle nous a reçu. Mais j'ai eu l'occasion de participer à une émission, enfin à une visioconférence avec une partie de son équipe. Et au cours de cette visioconférence, il était question des prochaines élections HLM. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de dire à un de ses collaborateurs qu'on était content enfin d'avoir un contact avec
Depuis le temps que vous l'attendiez, surtout.
Oui, parce que tous ses prédécesseurs avaient l'habitude, de manière républicaine, de nous proposer une première rencontre quand il venait d'être nommé ministre. Et elle ne l'avait jamais fait. Peut-être que le message lui a été transmis et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle nous a reçus les cinq.
Mmh. Ahmed Mamash.
Alors, pour compléter le propos de Michel, effectivement, il n'y avait pas eu de grande catastrophe suite au confinement.
Oui.
C'est dû au travail des bailleurs sociaux, de l'USH, des associations de consommateurs, notamment la Confédération Générale du Logement et le ministère. Il y avait des décisions qui ont été prises pour interdire les expulsions à la sortie du confinement. Toutes ces mesures ont donné vraiment un bon résultat et aujourd'hui, on a évité la catastrophe. Mais pour rejoindre les propos de Michel, c'est que la ministre à qui j'ai rappelé encore aujourd'hui, pendant la rencontre, qu'on était vraiment content qu'on soit reçu. Parce que c'est la première fois qu'un ministre ou une ministre prenne la maison et qu'elle ne convie pas les associations de consommateurs reconnues par les pouvoirs publics.
Alors évidemment, vous nous avez donné une réponse plutôt nuancée, hein, Michel, par rapport à ce que ce ne soit pas finalement une grande catastrophe. Mais on constate quand même que dans des grandes villes, voire des petites ruralités, l'accès décent, en tout cas un logement décent, se fait de plus en plus, devient de plus en plus compliqué.
Mais oui, parce que, si vous voulez...
Il y a une vraie quand même problématique à régler.
Tous les spécialistes du logement vous diront qu'il faut construire chaque année en France, pour que les gens soient correctement logés, au moins 200 ou 250 000 logements. Hein, c'est le rythme de construction normal. D'ailleurs, le précédent président de la République avait dit parce qu'on est en période de crise, qu'il rattraperait le manque de logements en France en construisant chaque année 250 000. Bon, promesse qui n'a jamais été tenue d'ailleurs. Mais ce retard, le cas que vous décrivez, est dû à un retard qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et qui s'amplifie année après année, un retard de construction. Résultat, il n'y a pas assez d'offres de logements pour loger les gens qui veulent un logement.
Ahmed, vous voulez réagir ?
Effectivement, par rapport au retard cumulé sur une décennie, l'engagement, enfin, le curseur était de construire en moyenne 250 000 logements sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas les comptes. Hein. On est à 100 000 qui ont été annoncés. Il faut réduire de 20% de logements à 80 000 logements. Nous n'aurons jamais de comptes.
Alors, autre problématique aussi, c'est que vous avez réagi récemment au communiqué du ministère chargé du logement le 22 juillet dernier, qui expose finalement le premier bilan de la réforme des aides personnalisées au logement, donc APL. Clairement, vous avez constaté visiblement, le gouvernement venait de réaliser une économie qui n'était pas négligeable. Quelle est votre réaction là-dessus ?
Eh bien, écoutez... il faut d'abord savoir que cette idée vient du ministère de l'économie et des finances, de Bercy, comme on dit. Ils ont fait leurs calculs et ils ont suggéré cette réforme au ministre parce qu'ils se sont dit, si on calcule les APL, on va dire quasiment en temps réel, pour faire simple, on va réaliser une économie d'environ 750 millions d'euros. Et d'ailleurs, ça a été acté dans la loi de finances. Ils espéraient faire 750 millions d'euros d'économie avec cette réforme.
Oui.
Finalement, ils se sont trompés. Ce n'est pas 750 millions d'euros d'économie qu'ils font, mais c'est 1 milliard 100 millions.
Et
ce n'est pas nous, c'est GEL qui le disons. C'est eux-mêmes, ils ont sorti un communiqué de presse dans lequel ils annoncent qu'ils ont fait jusqu'à maintenant 1 milliard 100 millions d'euros d'économie.
Donc le mode de calcul n'est pas bon,
Oui.
C'est ça,
oui.
En fait.
Alors, comme ils le disent, dans cette réforme, il y a à la fois des gagnants et des perdants.
Évidemment. Le problème, qui sont les grands perdants?
Les grands perdants, c'est ceux qui touchaient une certaine somme d'argent et qui, maintenant, touchent une somme moins importante parce qu'on calcule leur APL, j'ai presque envie de dire au jour le jour, mais ce n'est pas la réalité. On le calcule par trimestre. Et à chaque fois, une fois que l'année avance, on fait un nouveau calcul sur le trimestre suivant, puis ça continue jusqu'à la fin de l'année.
Alors, est-ce que cette réforme est plutôt juste ou pas, selon vous? Parce que c'est ça, en fait, la grande question.
Mais oui, c'est la grande question. Et, et d'un point de vue philosophique, il est difficile de dire c'est injuste. Pourquoi est-ce que c'est difficile ?
C'est encore nuancé, finalement.
Parce que finalement, c'est un calcul en temps réel, en quelque sorte. Oui. Alors qu'avant, on calculait sur deux années antérieures.
Tout à fait.
Donc, il y avait de grosses différences. Là, maintenant, on calcule en temps réel. Donc, d'un point de vue de la justice, on pourrait dire que c'est juste, mais nous, association de locataires, on dit grâce à ça, vous avez gagné 1,1 milliard.
C'est ça.
Et donc on dit cet argent, il ne faut pas que ça aille boucher les trous du budget de l'État, mais il faut que ce soit réinjecté dans le logement.
Oui. Ahmed, vous voulez réagir, hein. Je vous sens bouillir alors, comme sur... ça sur le siège.
Alors, sur les questions de logement, il faut savoir qu'on nous dit que le logement coûte 40 milliards, 38 à 40 milliards en aide d'appel, comme si le logement coûtait réellement de l'argent à l'État. Or, si vous rassemblez, encore ce n'est pas les chiffres de la CGL, c'est des chiffres exacts.
Oui.
Si vous rassemblez ce que ramène le logement à travers les taxes et tout ce que ramasse l'État, c'est plus de 80 milliards. Donc le logement ne coûte pas en France de l'argent à l'État, il ramène au moins 40 milliards. Je veux dire même, c'est l'une des sources principales pour renflouer les caisses publiques. Et cette réforme qui vient d'être faite, qui rapporte 1,1 milliard, on demande à ce qu'elle soit injectée, cet argent soit injecté dans la construction et pour le logement.
Bon, alors justement, on parle un peu d'avenir, si vous le voulez bien, Michel et Ahmed, parce qu'évidemment, il y a la reprise. D'abord, un point déjà sur cette reprise. Comment est-ce que la CGL aujourd'hui accompagne les locataires à la sortie du confinement, par exemple ?
Alors, Ahmed. Tout au long du confinement, la CGL avait accompagné des locataires. Nous avons mis en place des antennes au travers nos amicales, nos unions départementales sur l'ensemble du territoire.
Oui.
Donc, on a accompagné les locataires, certains de nos militants, de nos adhérents, font même des courses pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Tout
c'est
au
vrai.
Long du confinement, on appelait nos adhérents, on répondait au téléphone, même si c'était à domicile. À la veille du déconfinement, il faut savoir que les locataires étaient les grands oubliés. Il n'y avait pas de masque pour les locataires, alors qu'ils sont en situation de fragilité flagrante. Les mairies ne pouvaient pas fournir des masques.
Oui.
Et donc la CGL a pris la décision, et nous félicitons d'avoir pris cette décision courageuse, d'avoir consacré nos dotations données par les bailleurs sociaux au titre du conseil de concertation locative. La CGL avait investi toutes ces dotations CCL pour les associations, pour l'achat de masques. Nous avons fourni plus de 20 000 masques que nous avons envoyés dans 56 villes de France.
D'accord. Mais ça, c'est pas les maires, normalement, qui s'occupent de ça ?
Alors, les maires ne pouvaient pas, déjà, à la veille du déconfinement, il faut savoir qu'il faut d'abord trouver les masques. L'État avait du mal à les trouver.
C'est vrai qu'il y a une période où tout le monde avait du mal à en trouver, effectivement.
Voilà.
Mais vous en avez trouvé comment, alors ?
Alors, nous avons appel...
C'est ça. Vous avez une filiale chinoise ?
Pas du tout.
Non. On aimerait bien, mais on n'a pas. Mais on a d'autres filiales. Enfin,
nous sommes passés.
Vous faites du trafic de masques, vous, CGL.
Vous pouvez dire ça si vous souhaitez. Nous sommes passés par.
Je sais.
Nous sommes passés par une entreprise française qui est domiciliée dans le Val d'Oise, qui a fabriqué des masques dans le Val d'Oise.
En urgence. D'accord.
Et nous avons fourni l'ensemble des masques avant le 11 mai, c'est-à-dire avant le jour même du déconfinement.
C'est vous qui aurez dû fournir toute la France, en fait. Vraiment.
Oui, mais encore aurait-il fallu que la société qui fabriquait les masques ait les reins suffisamment solides pour fournir des millions et des millions de masques.
Vous savez que ça a été la même problématique avec les gels hydroalcooliques. Il y a même des pharmaciens qui ont commencé à faire du gel hydroalcoolique chez eux, dans les pharmacies, avec des tubes, avec des bons... Oui, c'est ça. Donc tout le monde s'est adapté finalement.
Ouais.
Et vous avez eu le sens de l'adaptation plus rapide que les autres, on va dire.
On peut dire
c'est
ça,
ou pas.
Oui, on peut dire ça.
Très bien. Alors pour finir, on parle un petit peu d'avenir. Quelles sont les actions concrètes les plus urgentes sur lesquelles vous allez travailler ces prochains mois, voire ces prochaines années, Michel?
Alors, les prochains mois, les actions concrètes pour nous, bien écoutez, c'est la préparation des élections HLM.
Évidemment.
Alors, c'est quoi ces élections? C'est la loi qui l'oblige. Les locataires, tous les 4 ans, votent pour désigner leurs représentants dans les conseils d'administration des organismes HLM. Donc une élection dans toute la France de tous les locataires qui vivent en HLM, ils désignent leurs représentants. Donc notre prochain chantier, si vous voulez, c'est celui-ci. Mais parallèlement à ce chantier que nous allons préparer dans les mois qui viennent et que nous allons faire en sorte d'avoir un maximum d'élus, nous allons continuer notre quotidien Et notre quotidien, c'est quoi ? C'est la défense
des Français,
des usagers du logement, ceux qui ont des problèmes avec leur bailleur ou avec leur syndic quand il s'agit de copropriétaires.
Vous êtes au plus près des problématiques des Français, finalement.
J'ai envie de dire, c'est notre job.
Oui, c'est ça.
C'est un terme qui est impropre parce que nos militants ne sont pas des salariés, si vous voulez. On a au sein de la CGL des salariés, on a des juristes, notamment, qui aident les usagers du logement quand ils vont en justice, etc. Mais
Votre ADN, c'est la justice sociale, finalement.
Oui, on peut dire ça. Et c'est l'aide aux gens qui, sans une association, ne pourraient pas se débrouiller et se feraient avoir.
En tout cas, vous faites un joli travail pour les Français. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'avoir été avec nous. Michel Fréchet, président de la CGL, Confédération donc Générale du Logement. Ahmed Mamache, merci pour votre investissement également, secrétaire général de la CGL.
C'est nous qui vous remercions.
Merci à vous, messieurs.
Merci pour l'invitation.
Vous restez ici ou vous repartez, là ? Non, vous avez encore des combats à mener, là.
On a des combats à mener. On va retrouver nos militants au stand de la CGL.
Et d'autres en réunion avec les partenaires aussi.
Très bien. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous.
Merci.
Allez.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.